Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour.
Nous sommes en mer avec le grand marin, avec... Alors, on ne dit pas la grande marine, on peut dire la grande pécheresse.
La grande pécheresse... Oh, je préfère garder le masculin à ces mots. Parce que... À l'origine, ça a été des métiers d'hommes. Et je trouve que ce serait un peu édulcorer le métier que de changer les termes.
Catherine Poula, j'aimerais que vous nous lisiez le tout début de votre très beau livre, Le Grand Marin.
Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Mais y arriver à quoi bon? J'ai fait mon sac. C'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque les plateaux, Manosque les couteaux. C'est février. Les bars ne désemplissent pas. La fumée et la bière... Je pars, le bout du monde, sur la grande bleue, vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur, je pars. Tu es folle. Ils se moquent toujours. Toute seule sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle, il rit. Riez, riez, buvez, défoncez-vous, mourrez si vous voulez, pas moi. Je pars pêcher en Alaska. Salut. Je suis partie.
Catherine Poula, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez de ces poissons que vous avez goûtés, pêchés.
Je me souviens d'abord de... du sang des poissons, avec la découverte des grosses tueries. Et puis leur goût. Ce goût limpide, ce goût d'océan, ce goût de... Au Japon, on dit que le poisson cru a le goût du lait des femmes. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas faire la comparaison, mais je peux comprendre le terme, l'onctuosité, la délicatesse. Du poisson, oui, j'en ai mangé souvent cru. D'abord parce que j'avais faim. Donc c'est très... En pêchant, on se retrouve dans une vie très première parfois. On a faim, on a sommeil, on a froid, on a... C'est le corps qui parle en premier. Et donc tout naturellement, j'avais faim, j'attrapais un morceau de poisson, j'attrapais un morceau de viscère, enfin de viscère, de l'étance peut-être. Et j'avalais ça à la sauvette parce que les hommes n'aimaient pas trop me voir faire ça. Pour eux, c'était trop animal. Et par la suite, c'est vrai, j'ai eu certains patrons qui n'étaient pas des bons patrons. Certes, une des premières choses avec lesquelles on peut brimer quelqu'un, ce sont d'abord priver la personne des nécessités premières, c'est-à-dire dormir, manger. Et donc c'est vrai que certains skippers, certains patrons m'envoyaient sur le pont pour amender les filets au moment du repas.
Parce que vous étiez la seule à savoir
J'étais la seule à savoir bien amender, oui, sur certains bateaux. J'avais acquis de l'expérience quand même. Et donc par fierté, on y va. On va réparer ces filets. On rentre dans le carré. Et voilà qu'on nous dit qu'il est trop tard, Le repas est terminé, il n'y a plus rien à manger. Heureusement, je faisais sécher des filets de poisson dans le mât. Des poissons que l'on ouvre, qu'on éviscère, que l'on suspend dans le mât et qui vont sécher avec le sel et le vent. On appelle ça squaw candy, une friandise de squaw, parce que c'est les Indiens, les autochtones, qui connaissaient cette méthode de conservation de poissons. Et donc je montais régulièrement dans mon mât. Le poisson n'était peut-être pas sec encore, peu importe, et je me régalais. Je n'ai jamais souffert de la faim.
Vous étiez parti chasser la morue, mais on ne ramasse pas dans ces filets que de la morue.
Oh, on ramasse une multitude de poissons de roche, des poissons de roche de toute forme, toute couleur, les idiotes-fiche. C'est-à-dire ces poissons très rouges qui ressemblent un peu à des rascasses. Aux nageoires très, très acérées et dangereuses d'ailleurs, parce qu'elles peuvent être très toxiques. D'autres poissons de roche aux couleurs irisées de vert, de jaune, on retrouve toutes les couleurs. Lorsqu'on pêchait le flétan, donc c'était en eau profonde, mais je peux même dire c'est dans les fonds, donc là on avait des étoiles de mer absolument énormes, assez monstrueuses. On avait des... Nous avons pris un jour dans les lignes un gros requin bleu, et nous avons été obligés de trancher la queue. Il était trop entortillé dans la ligne, on ne pouvait pas le libérer. Et donc j'ai hissé la queue à bord comme un totem barbare. Le patron criait parce qu'il faisait des péchés de ramener les flétans. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'y goûter.
Toujours, c'était la texture.
La texture. Toujours cette envie de goûter à cet animal qu'on venait de prendre, cette vie là, qui venait de nous échapper là, et goûter encore son goût d'océan et puis son goût de vie, parce qu'il était... Oui, il était mort à l'instant. C'était fibreux, ce n'était pas très bon. Malgré tout, c'était bon. J'adorais.
Vous parlez dans votre livre, dans Le Grand Marin, vous parlez de la nourriture d'homme.
Alors lorsque le patron dit ça, c'est de la nourriture pour homme, peut-être veut-il revendiquer un peu la place des hommes sur ce bateau. La nourriture d'homme, cela veut dire de la nourriture de travailleur, de la nourriture de dur. Pas de la nourriture de régime, de la nourriture de la nouvelle cuisine, de la nourriture qui fait du bien au corps, qui est un carburant, hein, qui va donner des forces, qui va donner des muscles, qui va donner la puissance de l'homme.
Tous ces poissons, vous les connaissiez? Comment éviter les parasites?
Eh bien, c'est vrai que la chair des poissons contient très très souvent des parasites qui peuvent être extrêmement toxiques. Et les Japonais mangent donc du poisson cru, mais coupé en tranches extrêmement fines. Et lorsque j'étais en Islande, lorsque je travaillais dans mes pêcheries de poissons, les filets de poissons nous étaient amenés, nous les posions sur des tables lumineuses, et nous arrivions à voir par transparence donc ces tout petits parasites qui s'enroulent donc dans les chairs. Mais lorsque je mangeais du poisson cru comme ça, évidemment, je n'avais pas le temps de regarder, ni l'envie, je dévorais. Et j'étais quand même malade plusieurs fois, il faut dire.
Catherine Poulain, comment les compagnons d'armes vous traitaient-ils quand ils vous voyaient dévorer cette chair de poisson?
Ils étaient très très choqués. Tu n'es pas un animal, il me disait. Tu n'es pas un animal. Et oui, je sais, je répondais, mais j'avais faim.
Quand Tom Waits chante Singapour, ça vous fait voyager aussi?
Oui, je vois ces hommes qui embarquent là pour avec toujours ce rêve que ça va être bien cette fois, qu'on va peut-être faire une bonne pêche. Bon, dans Singapour, c'est pas ça, mais ces gars partent quand même pour tenter de trouver une nouvelle vie, de faire fortune. Et chaque pêche est un éternel recommencement. Et à chaque fois, on va tout risquer, on va donner ses forces à fond. Et sachant qu'on est payé à la part sur un bateau, donc on touchera donc un pourcentage du bénéfice de la pêche. Et si on ne prend rien, on ne touchera rien. Il est même possible parfois qu'on doive de l'argent au patron pour payer le carburant et la nourriture et le matériel lorsqu'on en perd. Donc c'est une vie de... où il faut tout risquer. Mon premier flétan. Je lave l'intérieur du ventre blanc. Son cœur tranché a glissé sur la table. Il bat encore. J'hésite. Ce cœur qui ne se décide pas à mourir, je l'avale. Au chaud dans moi, le cœur solitaire.
On vous parle beaucoup de ce cœur solitaire.
Oui.
Quel est le goût de ce cœur?
Eh bien, le cœur a guère de goût, puisque l'île est Laval, il est vivant encore, donc on ne risquerait pas de mordre dedans. Il est froid, peut-être qu'on le sent palpiter, je ne sais pas. Il y a un goût de sang un peu qui reste. Un goût d'océan, toujours un goût de sel.
Vous dites que la chair du flétan est une chair délicieuse.
Flétan, morue, lingcod, blackcod, je ne connais pas la traduction de tous ces noms de poissons. La pieuvre est très bonne. Les petits calamars, ah oui, j'ai même mangé des appâts. Nous servions souvent de calamars comme appâts, parce que c'est un appât très 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 bon, très coûteux mais très bon. Et il m'arrivait certains matins, nous allions bientôt repartir, il fallait appâter, peut-être que j'avais un peu repeint la ville en rouge la veille. Et tout d'un coup, ce calamar-là glacé m'a semblé la meilleure chose au monde, la seule chose qui allait pouvoir me remettre l'estomac en place. Et donc, je l'ai mangé. Le patron est arrivé à ce moment-là, et il a poussé un hurlement. « Mais que fais-tu, Lily ?»« J'ai faim. Ça me remet en place, ça me remet l'estomac en place. » Et ça, il n'a pas compris. Et donc d'autres poissons. J'ai goûté aussi de ces coquillages, des bulots, de très gros bulots qui ont l'air poilus. Et à ce moment-là, on partait pêcher au casier, on partait pêcher la morue avant d'aller pêcher le crabe. Et on n'avait plus grand-chose à manger parce que on ne prenait pas grand-chose, le frigidaire était vide. Et donc j'ai dit au gars, écoutez, on a ces énormes bulots dans les casiers, je vais les récupérer et je vais essayer de préparer ça ce soir. J'ai fait cuire ça très très longtemps, c'était du vrai caoutchouc, c'était infect. Les gars ont été polis, ils m'ont remercié. Quelqu'un par la suite m'a dit que ces bulots étaient dangereux à manger et toxiques. Alors, ou c'est un mensonge, ou alors on a eu beaucoup de chance, mais on n'a pas été malade.
Parce que votre mission était aussi de faire la cuisine?
Parfois. Le cuisinier sur le bateau, en fait, ça peut être n'importe qui. Et donc, en tant que femme, on m'a souvent demandé donc de cuisiner.
C'est difficile. En plus.
Oui, hein. En plus. Donc, c'est assez fatigant d'être cuisinier, parce que souvent, lorsqu'il y a un moment de répit, les gars vont se coucher. À ce moment-là, ils vont faire une petite sieste, comme on dit. À ce moment-là, il faut préparer le repas. Les gars se lèvent, on mange et on retourne travailler. Il faut aussi se lever plus tôt pour eux, parce qu'il faut leur préparer des œufs au bacon, lorsqu'on en a, et des saucisses et des haricots rouges, enfin de la nourriture d'homme, quoi. Il faut aussi, lorsque le skipper est de quart la nuit, il vous réveille, il a envie d'avoir un petit déjeuner avant l'heure, ou il a envie de café. Donc on se relève pour lui préparer son café. Donc c'est assez ingrat. Et en même temps, j'ai trouvé ça parfois très, très, très... C'était une belle chose d'être cuisinier. Parce que c'est très, très important. Parfois, c'est la meilleure chose que l'on va avoir dans la journée. C'est ce qu'on va manger. On n'a pas les moyens, évidemment, de courir dans un magasin, acheter ce qui nous manque. Donc les moyens sont quand même assez restreints. Donc il faut arriver en peu de temps, parfois dans un temps épouvantable, à préparer à manger aux gars, que ce soit nourrissant, que ça leur donne des forces, et en même temps qu'ils aiment ça, que ça fasse plaisir à chacun. Donc c'est un casse-tête, mais c'est un travail de... presque un travail de mère.
Est-ce que vous avez entendu des chants de gorge ?
Non.
C'est des chants qui viennent de Sibérie, mais oui, qui ont été interdits par l'Église.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère. Le vent tombe. Le ciel s'ouvre et un soleil très pâle se montre. C'est Jess qui a aperçu le premier léger qui s'élève dans la brume. Il suspend son travail, tend le bras. Le skipper arrête l'hydraulique. Chacun aura le temps d'admirer la forme sombre qui n'en finit plus de surgir de l'eau. La moitié de son corps s'est levée comme au ralenti, avec une majesté et une grâce infinie. Dans les yeux des hommes, ce même émerveillement toujours quand ils croisent la reine des mers. « Putain, c'est une beauté !» dit Anne rêveusement avant de remettre les moteurs en marche. Plus tard, ce sera une loutre de mer qui fait la planche. Entre ses pattes avant, un poisson qu'elle mange d'un air cocasse. Dave me tire par la manche, j'éclate de rire. Elle tourne vers nous, un regard vif, mais ne s'interrompt pas. « Regardez-moi cette salope qui bouffe notre poisson !» gueule le skipper. Deux ailerons noirs fendent alors la surface des flots. Un couple d'orques, la loutre plonge. Seul reste ce cormoran solitaire qui nous observe au loin. Un sillage plaintif de mouettes dans le ciel pommelé.
Catherine Poulain, ouais, le skipper trouvait vraiment que les loutres de mer leur piquaient leur casse-croûte.
Oui, oui, mais là c'était assez... Ce n'est pas méchant. Je veux dire, sa remarque n'est pas... Mais parfois, les règles sont devenues drastiques en Alaska pour la protection des poissons et pour la protection des mammifères. Et parfois, la colère gronde par rapport à l'accroissement de la population de lions de mer et d'autres mammifères marins. Il y a une espèce de rivalité entre les deux.
Entre l'homme et le lion.
Oui.
Et le lion de mer, vous avez goûté ?
Non, non. On n'a pas le droit d'y toucher. Non. Les pêcheurs d'Alaska respectent énormément les lois par rapport aux quotas et par rapport à... Les amendes sont très très lourdes.
Vous avez navigué pendant 10 ans ?
J'ai navigué pendant 10 ans. Alors pendant des années, je revenais l'hiver, quelques semaines ou quelques mois. Et puis est venu le moment, un jour, où je me suis dit non, ce n'est plus la peine de rentrer. J'ai décidé de rester. Mais lorsque je rentrais en France, de toute façon, je n'attendais que le moment de repartir, le temps de... Au printemps, c'était comme un appel, c'est le temps, il faut y aller. Et donc oui, j'ai beaucoup navigué. J'ai vécu dans ce grand souffle de la mer et du ciel et du vent.
Et vos mains de trancheuse se sont cicatrisées ?
Oui. Oh, elles ont évidemment, elles ont un peu... Elles ont dégonflé. Ça... Vous savez, les mains, ça enfle très très vite et ça... Aujourd'hui, ce sont juste des mains un peu fatiguées.
Le gogotier était celui qui récoltait les petits foies de merouille pour les transformer en huile. Est-ce que ça existe toujours, les gogotiers ?
Non, je n'en ai pas rencontré en Alaska. Par contre, les autochtones en Alaska ont toujours le droit de chasser le phoque. Parce qu'on reconnaît qu'ils sont the first people, le pays est les premiers habitants, comme on dit. Et donc, ça fait partie des traditions. Et il y avait donc cet homme qui était Aléoute sur le bateau. Et un jour, nous avons croisé une horde de phoques. Il en a tué un. Il m'a raconté comment il se nourrissait. Il gardait précieusement encore le foie. Et il mangeait donc le foie du phoque qui était très riche en vitamines, peut-être en vitamine C, je crois. Mais le foie de morue, je sais qu'un jour j'ai pêché à Sitka et j'ai donc appris à mon patron à manger les foies de morue. J'ai dit, tu sais, c'est extrêmement riche. Et donc j'en faisais cuire et c'est vrai que c'est extrêmement gras et l'huile, nous en avons absorbé pas mal. J'ai mangé aussi du foie de flétan cru. Une fois on terminait la pêche, il était tard, j'avais très faim et c'était mon tour de glacer le poisson, donc je suis descendue dans la cale, le temps était très mauvais. Je glace le poisson et c'était des morues, il y avait deux petits flétans donc qui étaient tombés, donc je les ai découpés, j'ai préparé les filets. Et j'ai mangé leur foie cru parce que j'étais vraiment affamée, j'ai trouvé ça très bon. Et rapidement, donc en rentrant en ville heureusement, je me suis tordue de douleur et j'étais très malade, car le foie des flétans est peut-être bon pour la santé, mais j'ai fait une hypervitaminose A, donc intoxication alimentaire.
Catherine Poulain, quand vous retournez maintenant vers vos Alpes de Haute-Provence, que vous retrouvez vos petits moutons et vos petites brebis.
Vous savez, je suis toujours dans le grand mouvement parce que mes bêtes courent beaucoup. La terre est ferme et moi je continue à m'agiter et me dépenser énormément. Mais la mer me manque énormément. La seule comparaison que je pourrais faire avec la pêche ou lorsque j'avais embarqué avec la mer, lorsque je suis en montagne, c'est lorsqu'arrive la fin de la saison, c'est septembre, il fait mauvais, le brouillard arrive, on a peur des loups, et il y a la même angoisse là qui peut grandir en moi, et je me retrouve seule pareil au milieu des éléments, et je sais qu'il faut contrôler cette peur. Et je retrouve, oui, cette même solitude et cette même grandeur des éléments autour de moi.
C'est la louve de mer.
La louve de mer, oui.
Entre les grandes eaux et les troupeaux.
Entre les grandes eaux et les troupeaux. Il n'y a guère de comparaison. À part que mes brebis m'ont souvent fait penser, mon troupeau plutôt, m'a souvent fait penser à de l'eau. Le troupeau suit les reliefs comme le ferait un ruisseau, comme le ferait un torrent. Et est attiré par les mêmes... Un grand dôme va garder davantage le troupeau en son creux. Peut-être d'abord parce que les brebis vont se voir, donc elles ne vont pas... Elles vont rester, elles se sentiront en sécurité. Mais on a l'impression qu'il y aurait presque quelque chose là de la force centripète, oui. Et lorsqu'elles commencent à basculer, quelques bêtes commencent à passer la crête, de plus en plus passent et tout d'un coup ça bascule. C'est comme si, dès qu'il y en a trop qui commencent à la franchir, ça devient exponentiel, comme une masse d'eau le ferait. Et ça, c'est même courbe sinueuse, et ça, c'est même... ça vous échappe de la même manière, et ça... Oui, mais je pense que c'est la seule ressemblance.
Le goût de l'agneau?
Oh, je préfère le poisson, ça a une limpidité, une fluidité.
Quand vous reposez votre sac au milieu des gens qui ne savaient pas que vous étiez une louve de mer, Comment vous regarde-t-il aujourd'hui ces terriens d'eau douce?
Je suis la même louve de mer et la même louve de... Non, la même ancienne pêcheur et bergère aujourd'hui.
Et la bergère, quand elle a embarqué pour la première fois sur un navire de pêcheur, comment avez-vous été adoubée?
C'est un apprentissage qui est long, qui est difficile, qui est douloureux. Je pense que... Oui, il vient peu à peu, il faut faire ses preuves jour après jour. Il faut trouver sa place, il faut être efficace, il faut... Je pense que le fait d'avoir été blessée m'a aidé à être acceptée plus vite, peut-être.
Toujours les rites initiatiques.
Oui. Mais avant toute chose, c'est comme tous les novices, je suis passée par les mêmes parcours, je dirais pas blessures, mais tous se font mal, tous font des bêtises, tous se font terriblement engueuler par... Il faut travailler, il faut persévérer, il faut aimer ça surtout. Il faut mordre à l'hameçon.
Merci beaucoup Catherine Poulain d'avoir jeté l'ancre près de nous. Merci pour ce grand marin, le grand marin aux éditions de l'Olivier, qui est un très beau livre de mer.
Merci d'avoir embarqué.
Attention, voilà. 3, 4. Pliez, tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère. Avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son et de Jehan Richard Dufour et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission jusqu'à la fin des temps, si le temps le permet, et la podcaster pendant un an et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey!